RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Le grand reportage vous emmène aujourd'hui à Selma, Alabama. C'est dans le sud des États-Unis. Selma, petite ville de 20 000 habitants dont la population a doublé le 7 mars dernier. On y célébrait les 50 ans de ce que les Américains appellent le Bloody Sunday, à savoir le dimanche sanglant. C'est en effet le 7 mars 65 que la lutte pour le droit de vote des Noirs a été marquée par la répression violente d'une manifestation sur le pont Edmund Pettus. Loin d'être découragés, les manifestants de Selma, avec à leur tête Martin Luther King, ont persévérer jusqu'à ce que Washington intervienne pour les protéger des suprématistes blancs. Ils ont préservé jusqu'à obtenir ce fameux droit de vote. Et c'est sur ce pont, le 7 mars dernier, que Barack Obama est venu leur rendre hommage. Grand reportage signé Anne-Marie Capamacho que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je serais de retour ici pour présenter le premier président africain-américain, j'aurais dit vous êtes fou, vous avez perdu la raison, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le président Barack Obama.
La volonté de parler de ce qui est juste, de refuser le statu quo, c'est ça l'Amérique. Grâce à ce qu'ils ont fait, les portes du possible se sont ouvertes, non seulement pour les Noirs, mais pour tous les Américains. Les femmes ont franchi ces portes, les Latinos ont franchi ces portes, les Asiatiques, les gays, ils ont tous pu franchir ces portes.
L'intense émotion de John Lewis a fait frissonner la foule de Selma. Et Barack Obama avait des accents de Martin Luther King motivant ses troupes sur le pont Edmund Pettus. Pour ceux qui étaient dans les manifestations de mars 1965, les souvenirs sont toujours là. John Lewis, jeune leader non violent de 25 ans, aujourd'hui parlementaire respecté. Linda Lowery, la plus jeune ayant achevé la marche entre Selma et la capitale de l'Alabama, Montgomery. Le révérend Reese, pasteur de Brown Chapel, inexpérimenté. C'est lui qui, à l'époque, a appelé Martin Luther King à la rescousse.
Nous avons marché jusqu'en haut du pont Edmund Pettus qui enjambe la rivière Alabama. Et nous avons vu un océan de bleu, les forces de l'ordre de l'État. Et nous avons continué à marcher. Un homme s'est exprimé pour dire:
your orders to disperse, go home or go to your church.
C'est une marche illégale. Vous n'êtes pas autorisé à continuer. Je vous donne 3 minutes pour vous disperser et rentrer chez vous ou dans vos églises.
Return to your homes or to your church.
J'ai été frappé à la tête par un policier armé d'un bâton clouté. Je suis tombé. J'ai cru que j'allais mourir sur ce pont. J'ai pensé que c'était ma dernière manifestation non violente.
Nous étions à genoux quand j'ai entendu des tirs. En fait, ces tirs étaient les gaz. On ne voyait plus rien, on ne pouvait pas respirer. J'ai senti quelqu'un me frapper. Il m'a frappé 2 fois. J'ai couru dans les gaz et cet homme m'a suivi en me frappant. J'ai apparemment perdu connaissance car quand je me suis réveillée, j'étais sur un brancard. Je ne me souviens de rien d'autre. J'ai eu 28 points de suture sur la tête. L'infirmière, Madame Booker, a dit « C'est bien que les gens ne se souviennent pas de leur passage à l'hôpital, car les médecins, en fait, les ont recousus sans anesthésie. »
Nous avions décidé de ne pas rebrousser chemin et nous avions bien à l'esprit qu'il fallait résister, quelles que soient les épreuves à venir. Nous étions au-delà de la peur, décidés à obtenir le changement que nous pensions indispensable pour tous, quelle que soit la couleur de leur peau. Nous avons relevé ce défi, sachant que si nous mourions, nous serions morts pour une cause.
En regardant les images de l'époque, envoya les policiers à cheval charger les manifestants pacifistes et les battre avec des matraques cloutées. On se demande ce qui a pu pousser ces jeunes à continuer. Della Bryant a 87 ans aujourd'hui. Elle est présidente locale de la première organisation africaine-américaine, la NAACP.
Nous étions devant une sorte de restaurant en face de l'hôpital où nous avions rendez-vous. Ma mère savait que j'avais faim. Elle a tapé à la fenêtre. Elle a dit « Ma petite fille a faim ». J'avais 5 ans. Cette femme a répondu avec colère « Négresse, tu sais pas lire ? Tu as vu le panneau pour les Noirs ? Tu viens à l'arrière et j'ouvrirai la porte. » Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Elle m'a dit, « Ça va aller, mon bébé. Tu verras, quand tu seras une grande fille, tu comprendras que c'est ainsi qu'ils se comportent. » J'ai pas pu avaler ce verre de lait.
Ce que les ségrégationnistes ne pouvaient pas comprendre, c'est la profondeur des blessures morales et des humiliations, bien plus graves, comme l'explique Linda Lowery, bien plus graves que les points de suture après les coups de matraque.
When I first learned about segregation, it was when I was 7 years old.
Mon premier contact avec la ségrégation, c'est quand j'avais 7 ans. Ma mère est morte et j'ai entendu les adultes dire que si elle n'avait pas été noire, elle aurait pu vivre. Ce qui veut dire qu'elle serait allée dans un hôpital pour blancs pour recevoir les soins dont elle avait besoin. Donc, en entendant ça à 7 ans, entendre que ma mère était morte parce qu'elle était noire, j'ai su que les blancs ne nous aimaient pas. Je ne les aimais pas non plus. Et c'est sans doute ce qui m'a poussée à aller manifester.
Ce qui a empêché Linda de tomber dans un militantisme haineux envers les Blancs, c'est la présence de certains d'entre eux dans les manifestations.
Je dirais que les relations ont vraiment changé. Aujourd'hui, ma meilleure amie est une femme blanche. Son nom est Emily Gordon et je l'ai rencontrée en 1965. Elle est californienne. Elle était venue ici pour répondre à l'appel du Dr. King. Emily et moi sommes des amies, vraiment amies depuis cette époque.
On n'y pense pas souvent. Mais pour les Blancs qui rejetaient les lois ségrégationnistes, le quotidien n'était pas toujours facile. Le professeur Alton Fitz se souvient de cette époque étouffante.
J'étais décidé à ce que mes enfants ne grandissent pas comme moi. La suprématie blanche était une sorte de programme. C'était très compliqué de ne pas être pris dans ce système oppressif et malhonnête. Je me souviens d'un choc quand j'avais 11 ans. Je marchais vers l'épicerie juste à côté de la maison. Je faisais une course pour ma mère. Un homme noir avançait vers moi. C'était le premier noir de la bourgeoisie que je voyais. Il était habillé comme mon grand-père qui venait de mourir. Et je pense que je l'ai fixé du regard. Car l'homme est devenu de plus en plus nerveux. Il a quitté le trottoir pour marcher dans le caniveau. Et il m'a salué avec son chapeau. J'étais un enfant de 11 ans et je portais un jean. Cela m'a pétrifié. J'étais complètement abasourdi. J'ai voulu courir après lui pour lui dire quelque chose que je n'avais pas eu l'intention de le blesser. Mais je ne savais pas quoi dire. Et j'ai pensé qu'on pouvait me voir.
Morning, March 7, 1965.
Les 50 ans après la ségrégation, faut-il rester dans le souvenir ? Dans cette Amérique troublée par une nouvelle vague d'émeutes raciales depuis août dernier, et devant la colère des jeunes de la communauté noire excédés par les violences policières, devant les propos racistes tenus par des étudiants en Oklahoma, les paroles du premier président noir des États-Unis étaient attendues.
The single most powerful word in our democracy is the word we.
Le mot le plus puissant de notre démocratie est le mot « nous ». Nous, le peuple, nous vaincrons. Oui, nous pouvons. Ce mot n'appartient à personne, il appartient à tous. Nous devons nous souvenir de ces premiers marcheurs et nous renforcer par leur exemple. Nous devons nous référer au prophète Isaïe. Ceux qui espèrent retrouveront leur force. Ils voleront avec les aigles. Ils courront sans ressentir de fatigue. Ils marcheront sans s'évanouir. Nous honorons ceux qui ont marché pour nous permettre de courir.
So we could run.
Barack Obama est-il enfin devenu un homme noir ? L'homme qui évite soigneusement depuis 2008 ce sujet tabou à parler avec son cœur. Les 40 000 personnes qui ont submergé Selma lui ont fait un triomphe. Ils avaient besoin d'entendre ses paroles pour avoir l'énergie de continuer dans un pays où tous les problèmes ne sont pas réglés. À Selma, Linda le reconnaît, les écoles fonctionnent à nouveau comme à l'époque de la ségrégation et pour le professeur Alton Fitz, c'est un crève-cœur.
Nous nous sommes battus pour des écoles mixtes et aujourd'hui, c'est à nouveau la ségrégation. Les Noirs vont à l'école publique et les Blancs ont pris la tangente. Ils ont mis leurs enfants dans des écoles privées. Le système est complètement retombé dans la ségrégation. Mais c'est une ségrégation noire, plus une ségrégation blanche.
C'est l'échec le plus amer de mon existence. De ne pas avoir été capable de conserver des écoles mixtes. Mes enfants sont restés des années après que tous les autres enfants blancs étaient partis. Nous pensions que cela ferait la différence, cela n'a pas été le cas. Ma femme et moi, nous sommes sacrifiés pour les envoyer en pension, une pension mixte, où ils ont eu une très bonne éducation, et ils nous disaient qu'ils n'avaient plus honte d'être blancs.
James Perkins a été le premier maire noir de Selma entre 2000 et 2008. Selon lui, cette situation n'est pas anormale, ce n'est pas un échec, car il faut un siècle pour régler les problèmes. 50 ans n'est que la moitié du parcours.
Ce que les gens de Selma ont fait a été plus bénéfique pour le reste du monde que pour Selma. Vous devez comprendre que Selma est une sorte de ground zero. C'est ici qu'a eu lieu la bataille. Et quand les vedettes sont rentrées chez elles, quand on a éteint les caméras, c'est cette communauté, ce sont les gens d'ici qui ont dû faire face à ce qui restait. Les émotions brutes, les passions. Je suis convaincu qu'il faut 100 ans à une communauté pour dépasser une expérience de ce genre. Ce qui s'est passé sur le pont Edmund Pettus n'a que 50 ans. Je pense que cela va prendre un peu plus de temps, mais je suis prudemment optimiste sur le fait que nous allons y parvenir.
C'est difficile à entendre pour les jeunes de la communauté noire. Duray McKesson a fait le déplacement de Ferguson, Missouri. Il est l'un des leaders de la désobéissance civile qui s'est emparée de cette ville depuis la mort de Mike Brown. Et Duray n'attendra pas 50 ans de plus pour que cessent les violences policières contre sa communauté.
Nous savons que les suprémacistes blancs sont toujours actifs. Il y a des tensions qui ne sont pas réglées. Il y a une mobilisation réelle dans tout le pays. Les gens manifestent, ils sont en colère car la police tue des Noirs et cela se produit dans toute l'Amérique. Nous mettons nos vies en avant pour des causes que nous croyons justes. À Selma, ils ont marché. À Ferguson, nous manifestons. Nous sommes dans la rue, comme ils l'ont été ici. Nous reprenons une tradition dans la lutte, mais même s'il y a des similitudes, c'est différent.
Les anciens ont conscience de cette frustration et le message de Selma, le message de John Lewis, de Della Bryant, celui de Barack Obama est sans équivoque. Les jeunes noirs américains doivent cesser de geindre et se prendre en main.
Le boulot, la mission n'est pas achevée. Nous avons avancé et nous avons fait beaucoup de progrès. Mais il y a des forces dans l'Amérique d'aujourd'hui qui veulent nous faire reculer. Et nous devons dire, nous sommes allés trop loin, nous avons fait trop de progrès et nous ne reculerons pas, nous devons aller de l'avant.
Cela fait 50 ans, mais j'ai peur que nous régressions. Nous régressions et nous ne le savons même pas. Et quand je dis nous, c'est nous, les Noirs. Nous n'avons pas demandé à venir ici, mais les autres sont venus de leur plein gré et ils étaient bienvenus. Nous devons être traités comme les autres, ceux qui sont venus de leur plein gré. Je pense qu'on nous le doit.
L'erreur grossière serait de considérer que Ferguson est un incident isolé, que le racisme n'existe plus, que la mission qui a guidé les hommes et les femmes de Selma est terminée. Nous n'avons pas besoin d'un rapport sur Ferguson pour savoir que ce n'est pas vrai. Nous savons que la marche n'est pas terminée.
Il ne faut pas nier, oublier ce qui a été accompli en 50 ans, dit Barack Obama. D'énormes progrès ont été réalisés, reprend John Lewis, des avancées, des prises de conscience qui se manifestent par de petits gestes porteurs d'espoir.
En 1961,
à un arrêt de bus, alors que j'attendais, des membres du Ku Klux Klan nous ont attaqués, nous ont battus et nous ont laissés dans une mare de sang. C'était en 1961. De nombreuses années plus tard, c'était en février 2009, l'un de ces hommes et son fils sont venus dans mon bureau et il a dit « Monsieur Lewis, je suis l'un de ceux qui vous ont attaqué, battu. » Et il a dit « Acceptez-vous de me pardonner ? Je suis venu présenter mes excuses. » Et j'ai dit « Je vous pardonne, j'accepte vos excuses. » Il était avec son fils. Le fils avait dans les 40 ans et le père dans les 70. Tous les deux sont mis à pleurer. Ils m'ont serré dans leurs bras, je les ai serrés dans mes bras et j'ai pleuré.
Grand reportage de Selma Ferguson, Anne-Marie Capomaccio, réalisation Eva Moshinsky.
Anne-Marie Capomaccio, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors, on est un peu mal à l'aise hein, après ce reportage. On se demande quelle est l'Amérique du XXIe siècle. Est-ce que c'est une Amérique qui retourne vers la ségrégation ou une Amérique qui avance? On a l'impression, comme certains de vos interlocuteurs le disent, qu'on régresse sur le plan de l'égalité des droits.
C'est compliqué en fait. Je pense, comme le dit John Lewis, que de réels progrès ont été accomplis, mais la ségrégation raciale a été remplacée, entre guillemets, par une ségrégation sociale, et c'est ce à quoi nous assistons aussi dans certains pays européens. En France, lorsque le Premier ministre Manuel Valls a parlé d'apartheid social, cela a fait scandale. Eh bien, je trouve que cette phrase reflète bien ce qui se passe ici. Ce sont les plus pauvres qui se sentent rejetés, qui se sentent oppressés par des inégalités qui sont réelles. L'autre facteur est que lorsqu'on fait des progrès, on a hâte d'arriver au but et les injustices sont d'autant plus criantes. Et c'est à mon sens ce qui provoque les manifestations incessantes de Ferguson, par exemple.
Alors Ferguson, qui est toujours sous pression, nous entendions à l'instant l'un des leaders des manifestations contre les violences policières, le message de Barack Obama qui demande aux jeunes de se prendre en main. Est-ce que ça ne va pas contribuer à alimenter la tension ?
Il faut retenir que si Barack Obama exhorte les jeunes à agir, il ne cautionne jamais la violence. Il leur demande d'agir par les voies légales, par une plus grande implication dans la vie sociale. Le président a condamné les pillages de Ferguson et il a promis que les agresseurs des deux policiers blessés par balle seraient traduits en justice. Dans le même temps, l'administration américaine est extrêmement sévère avec les responsables locaux et pas seulement à Ferguson. Plusieurs enquêtes fédérales sont en cours aux États-Unis sur les violences policières et c'est le ministère de la Justice qui les mène et qui exige ces réformes.
Alors Anne-Marie, on aurait pu penser que l'élection d'un président noir allait permettre d'avancer plus rapidement vers une société post-raciale, selon les termes mêmes de John Lewis. Mais finalement, c'est pas vraiment le cas.
Vous avez raison, c'est un peu le contraire qui se produit et c'est explicable. Nous pouvons prendre l'exemple des droits des femmes pour comparer. Lorsque les femmes ont commencé en Europe à prendre des responsabilités, à occuper des postes que les hommes convoitaient, nous avons aussi assisté à un retour en arrière, à un raidissement avant de regagner du terrain. Eh bien, c'est ce qui se produit aux États-Unis. Barack Obama président, cela réveille chez certains les plus bas instincts, mais j'imagine que cela fait partie du processus. Lorsqu'on avance, le chemin est difficile, il faut rester vigilant et surtout ne rien laisser passer.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur RFI.fr. Anne-Marie Capomaccio, merci beaucoup.